J'ai le gosse congolais avec un ingénieur.
Bonsoir, clôture mardi à Kinshasa de l'atelier sur la lutte contre la corruption organisée par l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Quel constat les organisateurs ont fait sur la corruption et que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Trois invités participent à cette émission. Maître Ruffin Louko, porte-parole du ministre de la Justice et Droits Humains. Maître Louko, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Maître Mulumba Chibumba, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Maître Chibumba, vous êtes en ligne? Non, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Monsieur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, sur le visiteur, vos réactions nous sont déjà parvenues. Guillaume, le Brackberg de Maïgui en province orientale. Je pense que la corruption ne sera pas éradiquée en RDC tant que la politique de la tolérance zéro prônée par le chef de l'État ne sera que partiellement appliquée. Aline Riziki Simongue d'Ouvira ensuite vous. Je me demande quel sera l'apport de cet atelier dans la lutte contre la corruption quand on sait que cette dernière est souvent entretenue. N'est-ce pas là un effort de plus pour rien tant qu'il n'y a pas une volonté manifeste de la part de nos autorités? Merci de nous suivre à ici, Rouen, province orientale, sur 90.1 FM et partout au monde sur radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Clôture mardi à Kinshasa des travaux de l'atelier sur la lutte contre la corruption, organisé par l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale, OLCAC en sigle. Cet atelier de deux jours poursuivait entre autres comme objectif d'établir une feuille de route réaliste pour renforcer la lutte contre ce fléau qui mine la RDC. Thérèse Bastoubi pour les détails.
Dans son discours d'ouverture de cet atelier, le ministre de la Justice a fustigé la passivité de la société civile. Selon lui, la société civile doit dénoncer des cas de corruption et mettre à l'épreuve l'État, ce qui d'après Luzolo Bambi n'est pas fait suffisamment. Ce qui l'a poussé à qualifier cet atelier d'une énième rencontre qui risque d'être inutile car d'après lui, il ne suffit pas de chanter la corruption. Il est inexplicable d'avoir 5 milliards pour un budget national et 15 milliards de francs congolais d'évasion fiscale sans que la société civile se dresse, a déclaré le ministre Luzolo. Un exemple qui a susciter la réaction de la société civile. Des cas de corruption sont signalés, mais le problème n'est pas à leur niveau, a indiqué le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale, Maître Mulumba Chibumba.
Vous avez entendu M. le ministre lui-même se plaindre lorsqu'il nous dit par exemple que les gens qui sont arrêtés se volatilisent. Mais quel est son travail? Parce que c'est lui qui a sous sa compétence les maisons d'arrêt. Comment ces gens s'évadent-ils alors qu'il est là? Mais il y a le problème au niveau de la justice, il y a un dysfonctionnement. On dénonce, on arrête les gens, et puis ils ne sont pas sanctionnés. C'est ça le problème. La société civile voudrait maintenant le contrôle citoyen et tout contrôle ne se conçoit qu'avec la sanction.
Toutefois, le ministre de la Justice a souhaité que cet atelier aboutisse à une meilleure collaboration entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte.
Voilà, la réalisation me signale que Maître Mulumba Chibumba, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale, n'est pas joignable. S'il est en train de nous suivre, Maître Mulumba Chibumba, qu'il nous permette de le joindre pour qu'il participe à cette émission, comme il a donné son accord de principe. Maître Ruffin Louko, vous êtes porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. On l'a suivi dans le reportage de notre consoeur Thérèse Bastoubi, pour le ministre Luzolo Bambi. C'est une énième rencontre qui risque d'être inutile pour les citoyens.
Merci pour l'invitation et pour la parole. Évidemment, parce que le chef de l'État avait été d'abord le premier à considérer qu'il y avait déjà autant de séminaires, autant d'ateliers, autant de bureaux d'études et consorts.
Autant de déclarations.
Même du chef de l'État aussi. Non, le chef de l'État ne se limite pas aux déclarations. cinq chantiers, on le voit à marcher. Lutte contre la corruption, on voit la justice bouger. Je l'avais déjà dit ici, en dépit du fait que ça fait deux mois qu'on ne passe plus ici. Je l'avais déjà dit ici que nous avons eu environ 2000 quelques magistrats pendant 50 ans. Le président de la République, pour ne pas s'arrêter à la parole, il vient de désigner 1000 magistrats pour une année. Ça sera donc 2000 pour deux ans. C'est un record. Donc, plus de 80% des effectifs actifs désignés dans deux ans. Donc, ce n'est pas seulement la parole. En ce qui concerne particulièrement l'abondance et la multiplicité des séminaires et consorts, je considère déjà, de prime abord par rapport au débat national sur la corruption, que le principal problème auquel est confronté la nation, et en particulier le gouvernement et le ministère de la Justice, c'est la corruption. Par rapport à tout ce que le ministère de la Justice a fait, il se raconte que l'animal ou la bête la plus féroce, celle qui détruit la nation davantage, je parle des bêtes féroces, c'est la corruption. Et le ministre, parce qu'il tient ce discours-là que nos compatriotes de la société civile ont entendu lors de l'ouverture de la clôture, par rapport à la stigmatisation du fait que la société civile ne fait pas son rôle suffisamment. C'est un défi qu'on leur lance pour qu'elles soient motivées, excitées à ne plus faire ce qu'il faut aujourd'hui. Donc, de jouer en quelque sorte aux complices de ce qui se passe. Si la société civile, la victime principale de la corruption, parce que finalement, nous tous là, nous sommes presque des victimes passives, si pas des complices de la corruption, parce qu'elle est plurielle, et nous allons évidemment peut-être avoir le cas ici de nous montrer que la corruption ne s'arrête pas seulement, comme on l'a dit, aux policiers de la route, ou bien aux agents des frontières, et consorts, ou aux OPJ. C'est plus important que ce que l'on croit, cette corruption étant généralisée. Il faut donc l'implication de tous, et en particulier de la société civile.
Mais dans le reportage que nous venons de suivre, Maître Ruffin Louko, vous avez, il y a Maître Kibumba d'ailleurs, qui se plaint de ce que plusieurs cas de corruption ont été signalés, et le ministre lui-même reconnaît que ces gens-là arrêtés se volatilisent, et beaucoup de cas de corruption dénoncés sont restés sans suite.
Vous savez, la casquette du ministre, c'est de voir les gens arrêtés. Et qu'en dépit du fait qu'ils sont arrêtés, la corruption les accompagne pour les permettre, une fois arrêtés, de parvenir à se volatiliser toujours au travers de la corruption.
Alors, si le ministre ne s'en sort pas, qu'est-ce que nous allons devenir?
Non, le ministre va s'en sortir avec le soutien de tous. Vous savez, ce n'est pas que le ministre ne s'en sort pas. Nous allons nous en sortir d'abord avec l'appui de toutes les réformes que nous sommes en train de déclencher au travers de la suite. Donc, dans l'état actuel de la justice, le ministre estime que dans cet état actuel, les retombées ne seront pas substantielles. Ce seront des retombées parce que c'est un patrimoine qu'il faut absolument réformer. Il faut donc parvenir à aménager les structures ou les données qui vont nous permettre à vaincre la corruption. Dans l'état actuel des choses, avec. Parce que l'agent principal de la lutte contre la corruption s'appelle la justice, donc le magistrat. C'est pourquoi le chef de l'État insiste si la rupture dans la conception de la justice par nos magistrats. Si les magistrats ne bougent pas, rien ne se fera en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Même si on arrête les gens, c'est finalement pour les acheminer devant les juges, et les juges, la sanction, et la sanction, les peines accessoires, c'est-à-dire la confiscation, la privation des droits civiques et politiques, et il y a entre autres un texte de loi, un projet, par rapport notamment aux peines accessoires qu'il faut renforcer en ce qui concerne la corruption et le détournement des biens publics.
Maître Mulumba Chibumba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Dans le reportage que nous venons de suivre tout à l'heure, le ministre de la Justice et des Droits Humains a semblé dire que ça risque d'être un atelier de trop.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous ne voulons pas la polémique sur un besoin essentiel qui tient à l'unité, c'est-à-dire à l'existence, l'unité nationale, à l'existence même du Congo, à son indépendance et à sa gouvernance. Nous ne voudrions pas, parce que son Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits Humains, c'est notre premier partenaire. Je ne vois pas comment, si on dénonce et si la justice n'est pas appliquée, c'est que la lutte contre la corruption peut servir. À quoi est-ce qu'elle peut servir? Donc, nous disons ceci, nous ne voulons pas la polémique. Nous sommes venus devant Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice, pour lui dire, voici nos esprits, voici nos cœurs, voici nos bras, nos actions, pour que nous puissions les mener ensemble afin d'éradiquer ce fléau. Et nous disons que aider les terres à éradiquer la corruption, c'est le renforcer. C'est comme ça que nous pensons à l'Observatoire de lutte contre la corruption, parce que par cette voie-là, il peut avoir de l'argent, assez de moyens, pour pouvoir rencontrer nos besoins essentiels, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, l'eau et l'électricité de qualité, les routes de dessert agricoles, la santé, l'éducation, pour ne citer que ce besoin-là essentiel.
Alors, Maître Moulumba Sivumba, quel est à ce jour l'état des lieux que vous faites de la situation même de la corruption en RDC? Parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de forums, comme nous l'avons dit tout à l'heure.
Oui, beaucoup de forums. Nous pensons que la corruption a pris de l'ampleur exponentielle. Et il faut beaucoup de forums précisément pour former, éduquer, conscientiser, parce que nous pensons que la seule répétition ne peut rien faire. Nous avons déjà des maisons d'arrêt qui sont devenues des mouroirs. Il faudrait que nous puissions systématiser cette prévention-là. Et c'est pourquoi nous demandons précisément qu'il y ait la stratégie nationale de lutte contre la corruption, pour que chacun puisse, en tout cas, mettre sa main à la pâte, la société civile, le gouvernement, nos partenaires au développement et le secteur privé. En tout cas, je ne vois pas une autre issue. Avant la répression, il faut former, éduquer, réarmer. Mais à côté de cela aussi, il faudrait qu'il y ait le partage équitable du produit national.
Alors, qu'est-ce qui fait, Maître Moulumba, que la corruption ait pris de l'ampleur malgré toutes les déclarations que nous entendons, que nous suivons de la part des autorités politiques, de la part de la société civile? Qu'est-ce qui fait que la corruption a pris une grande ampleur malgré tout ça?
Oui, la corruption a pris une grande ampleur parce que précisément, il n'y a pas la volonté. On ne sent pas la volonté de tous ses partenaires. Et c'est cette volonté que nous demandons. Dans notre atelier, nous demandons à ce que cette volonté soit renforcée. D'abord sur le plan politique, et puis les autres partenaires peuvent suivre. On ne sent pas cette volonté. Parce que vous vous rendez compte, nous, la société civile, nous sommes allés rencontrer notre autorité pour lui dire « Nous voulons vous éconder ». Mais il nous fustige. Sur quel point? Vous comprenez qu'il y a un problème. Donc il faudrait, vraiment pour nous, pour que nous puissions sentir cette volonté, nous nous sommes dit que la stratégie nationale de la lutte contre la corruption puisse comprendre et tolérance zéro et les causes de marché public et la réforme de la justice. Tous ces mécanismes-là que nous pouvons mettre en place, que ce soit dans une stratégie où chacun doit se sentir responsabilité face à ce mal qui est en train pratiquement de détruire le pays.
Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi tour à tour Maître Rustin Louko et Maître Moulumba Tshibumba. À ce niveau, quelle est votre analyse en ce qui concerne l'état des lieux sur la corruption en RDC?
Oui, merci. Il faut d'abord reconnaître que chaque pays développe ses propres formes de corruption. Évidemment, je ne voudrais pas ici, comme le faisait Jean-François Bayard, adopter une hypothèse qui, en fait, tendait à mettre en corrélation la stabilité d'un régime politique et les formes de corruption qui s'y développent. Mais, à écouter le ministre, j'ai l'impression qu'il est quelque peu dépassé par l'ampleur de la corruption. Et donc, il s'agit là, si on l'écoute, un meilleur culpa. Il est vraiment dépassé et il faut se demander s'il a vraiment le pouvoir nécessaire pour mettre fin à ce phénomène. Il faut aussi signaler que en RDC, comme dans la plupart des pays africains, les élites politiques sont en fait passés maîtres dans, ils ont développé en fait des capacités de production d'un discours officiel qui correspondent aux attentes et aux consolidités des bailleurs de fonds. Et ces discours est vraiment éloigné, extrêmement éloigné des réalités. Quand on sait que les solutions qui nous sont proposées de l'extérieur sont de nature, sont exprimées par des concepts du genre bonne gouvernance, lutte contre la corruption, transparence. Et donc, c'est cette forme de contrôle de l'aide qui doit être traduite en discours. Et ce discours est très abondant. Et chez nous, il y a, vous avez suivi le slogan qui est jusque-là, qui ne semble pas être suivi des actes. Et on attendait des signes assez forts, mais je ne crois pas qu'il y ait des signes forts, parce que quand on prétend lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait un programme précis de lutte contre la corruption. Et ce programme, nous ne le voyons pas. Nous assistons tous les jours, et ça c'est quelque chose qui est très déplorable, à une corruption qui est visible par tout le monde. C'est la corruption par les forces de l'État, de l'ordre. Sur les voies publiques, tous on est en sommet. Il y a par exemple une sémiologie de la corruption qui est largement développée, et sur la rue on vous dira que les retards ont des versements, par exemple. Et vous avez comme ça des concepts qui sortent et qui sont connus de tout le monde. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. En tout cas, nous ne voyons pas des actions visibles qui vont dans le sens de lutter contre la corruption. Voilà un peu qui amène Jean-François Médard à dire en fait qu'il y a une corrélation entre la stabilité d'un régime et les formes de corruption qui s'y développent.
Alors, Félicien Kabamba, peut-on dire comme Maître Moulumba qu'il n'a pas de volonté ou sous d'autres formes, c'est qu'il n'y a pas eu une véritable appropriation de cette lutte contre la corruption?
Bon, disons que la lutte contre la corruption n'a pas commencé, mais maintenant, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Depuis à l'époque de Mobutu, la corruption était quelque chose de très généralisé, qui en fait commençait en haut et descendait jusqu'au bas de l'échelon. Alors, avec la révolution tagilienne, on a vu, en fait qu'on a attendu qu'il y ait des signaux dans le sens de lutter contre la corruption. Et donc des mesures précises, un programme précis, avec un suivi rapproché. Mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Allez par exemple mettre les magistrats. Et or, moi je crois que c'est... On peut me dire que c'est une bonne décision, mais on attendait plus que ça. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont reconnues. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir, donc, soit d'être corrompues, soit d'être corrupteurs. Et ces personnes, nous les voyons occuper de fonctions officielles.
Voilà, Maître Jocelyn Loukou venait de suivre Félicien Kabamba, et il me semble que pour lui, hein, le ministre semble est dépassé par l'ampleur de la corruption, et il n'y a pas de volonté manifeste comme le soutient Maître Moulumba.
Je l'ai suivi. Mais en dépit de ces constats qu'il a donné, son constat, pour ce qu'il semble percevoir de l'attitude du ministre, d'abord le ministre n'est pas parti qui gèle la société civile. Le ministre est venu relancer la volonté et la contribution de la société civile, n'est-ce pas, à ces combats qui n'est pas individuel, qui n'est pas personnel. Le ministre est donc l'élément qui implique, mais ce n'est pas lui l'acteur d'exécution. Alors il n'est pas le constat que non, le ministre est dépassé par le gouvernement. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Lorsqu'on tient ces discours, on a l'impression qu'on ne sait pas par quelle voie on peut combattre la corruption. Le ministre de la Justice et des droits humains est principalement, comme sa fonction l'indique, le ministre de la Justice, il n'est pas de l'éducation. Il n'est pas ministre, n'est-ce pas, des sports. Il est ministre de la Justice. En ce qui le concerne, lui, il considère, en tant que membre du gouvernement, que la corruption ne sera vaincue notamment que par le renforcement des acteurs principaux qui sont là pour combattre directement la corruption.
les chercheurs à l'université de Kinshasa, les collègues, dit que, il a remarqué, il y a même des corrompus qui occupent des fonctions. Mais alors, Congolaise dit que les corrompus qui occupent des fonctions, les seuls qui peuvent les empêcher de continuer à occuper des fonctions, c'est la justice. Le code pénal prévoit que lorsqu'on est coupable de corruption et de détournement, il y a des peines accessoires, notamment la privation des droits civiques et politiques, et en particulier l'interdiction d'occuper des fonctions publiques. Ça, c'est une loi qui ne peut être appliquée que par des juges, non magistrats. Alors, lorsque le gouvernement, le président de la République, nomme 1000, on ne doit pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Nomme 1000 magistrats. C'est pour que ces gens-là, principalement, puissent aller répondre à la préoccupation nationale dans laquelle est impliquée la lutte contre la corruption, la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre l'impunité en général. Donc, volonté politique, il n'y en a pas. Voilà une preuve, la nomination de magistrats. C'est-à-dire, pour le gouvernement et pour les spécialistes, comme l'a cité le collègue de l'Université de Kinshasa, c'est établi, c'est consacré que l'impunité, on le vaincra jamais. Si le maréchal n'a pas vaincu, parce que le maréchal a combattu la corruption avec des gens corrompus. C'est l'exemple du ministre que le ministre a juste donné.
Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Non. Comme on l'appelle, c'est Mbouma, Mboa, qui chasse une antilope. Et en chassant l'antilope, le boa avale sa propre queue. Elle avance comment? Donc, en tournant, en train de poursuivre l'antilope, elle avale sa propre queue. Vous ne pouvez pas combattre la corruption en état vous-même corrompu. Les agents corrompus ne combattront jamais la corruption. Ou les agents corrompus ne vaincront jamais la corruption. Donc, l'on est en tête. Lorsque le collègue de la table dit que non, il y a des magistrats innocents qui ont été évoqués, c'était possible. Il peut y avoir des innocents. Mais la volonté était d'extirper du corps des magistrats, comme les avocats sont en train de faire. L'éradication des avocats et des délicats, c'est cette même volonté qui a été détruite. Maintenant que nous nous engageons dans la lutte contre la corruption, que nous n'ayons plus des magistrats corrompus. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui sont revenus à la salle, comme on dit, ça c'est la terreur, il est venu au galop. Donc, principalement, on ne combattra jamais, on ne vaincra jamais la corruption dans la justice. Ceux qui vont mettre fait ou vaincre la corruption, c'est le gouvernement en s'appuyant sur sa branche armée qu'on appelle la justice, les magistrats congolais.
Maître Mulumba Tshibumba, Georges, a suivi tout à l'heure, a évoqué une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pensez-vous que ça manque à ce moment?
Oui, ça manque parce qu'à l'atelier, une des recommandations que nous avons prises sur l'inspiration précisément de l'intervention de son Excellence Monsieur le ministre de la Justice et des Droits Humains, les magistrats que nous avions invités, des avocats et des partenaires au développement, nous sommes arrivés à ce constat-là que la stratégie nationale de lutte contre la corruption manque. Cette stratégie doit reposer sur les standards internationaux, parmi lesquels on peut citer la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, dont nous avons appris que les instruments doivent être déposés au secrétariat général des Nations Unies. Nous nous sommes dit, nous devons accompagner l'action de ce dépôt. Voilà déjà la contribution palpable au lieu d'entrer dans des polémiques ou bien des projections de celui-là ne fait pas, celui-ci fait ainsi de suite, parce que la lutte contre la corruption n'est pas l'apanage d'un individu, d'un groupe d'individus, ce doit être une action politique systémique.
Maître Mulumba, le chef de l'État a lancé le concept tolérance zéro. Alors, à vous comprendre, ça ne porte pas encore de fruits.
Mais ça ne peut pas porter le fruit parce que ce n'est pas un slogan, ça. Nous disons ce slogan-là ne peut bien se comprendre que dans une action bien systématisée, rationalisée et puis responsabilisée. C'est ce que nous avons demandé à l'atelier. En tout cas, la société civile présente déjà ce schéma-là. Au lieu de pouvoir entrer dans des discussions, non. Est-ce qu'il y a moyen que nous puissions responsabiliser les gens? La famille, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'école, qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? L'église, parce que nous avions appelé pratiquement toutes les composantes de la société à notre atelier. Il faut responsabiliser ces gens. Si nous, on a appris à respecter la chose publique, c'est parce que dans notre famille, d'abord la maman m'a dit, le papa m'a dit qu'attention, il faut faire attention au bien d'autrui, il faut le respecter, il faut bien le protéger. À l'école, nous avons trouvé des formateurs qui ne nous ont jamais demandé de l'argent pour passer des classes ou bien pour avoir beaucoup de points, ainsi de suite. Et nous avons vu cette chance-là, ce que nous avons reçu gratuitement, nous sommes en train de le donner gratuitement aux autres.
Maître Mulumba, il y a deux auditeurs qui nous ont écrit, Raymond Kasangala de Kinshasa, vu la profondeur de cette plaie en RDC, la corruption, quel impact pouvons-nous attendre de cet atelier? Que propose cet organisme qui ne l'a pas encore été pour éradiquer la gangrène de la corruption? Malunga Kubali de Bandundouville, comme l'Afrique s'est laissée aliénée par des multiples défauts, la corruption restera à jamais dans les pays de l'Afrique centrale, car les corrompus sont impunis et promus au détriment des paisibles citoyens, Maître Mulumba.
Oui, c'est vrai, la corruption est là, mais nous ne devons pas laisser tomber les bras, nous devons la combattre. C'est pourquoi l'Observatoire, qui n'a pas de prétention de pouvoir mener cette action seul, propose une action systémique, à tous les niveaux. C'est pourquoi même à l'atelier, nous avons utilisé l'expression artistique. Nous avons une grande force culturelle que nous pouvons vraiment mettre en branle pour la lutte contre la corruption. Le Congo, c'est une puissance, c'est une force culturelle. Mais au lieu de pouvoir bataviser cette force, il faudrait la sublimer, la positiver. C'est ce qui nous donne d'ailleurs l'espoir que nous viendrons à bout de la corruption. Qu'est-ce que nous proposons? Dans une stratégie nationale de lutte contre la corruption, formelle, eh bien, nous allons responsabiliser la famille, responsabiliser l'école, responsabiliser l'église, responsabiliser les organisations qui travaillent à la promotion des valeurs morales et des valeurs citoyennes. Mais lorsque la prévention échoue, ce n'est qu'alors, en ultime recours, que nous pouvons faire appel à la justice. Et la justice, nous ne pouvons pas distinguer les bons et les mauvais magistrats. Il faudrait soumettre ces magistrats à une bonne formation professionnelle, mais assurer le contrôle. C'est pourquoi, à l'atelier, nous avons proposé à ce que l'on puisse carrément installer la Cour constitutionnelle. De sorte que le président de la Cour constitutionnelle, qui, sur le plan constitutionnel, est le chef du Conseil supérieur de la magistrature, puisse jouer pleinement son rôle. Et à côté du contrôle, comme je l'ai dit, le contrôle est toujours accompagné de la sanction. Alors, si ces gens sont bien formés sur le plan professionnel, s'ils sont bien payés, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions professionnelles bien assurées, des conditions sociales aussi, compte tenu des charges sociales qu'ils ont, et ils sont contrôlés et sanctionnés, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions à ce problème de la lutte contre la corruption. Autrement, nous serons toujours dans cette guerre-là entre le ministre de la Justice et les magistrats, et ainsi de suite. Une guerre qui n'intéresse pas, qui ne nous intéresse pas, nous, la société, parce que la société, dans l'entretemps, est en train de se perdre et dans la déliquescence totale.
Merci.
J'ai lu dernièrement dans le rapport de la CIA, l'Agence américaine de renseignement, que malgré le point d'achèvement et tout ça, le Congo est le dernier en matière du PIB. Après le Burundi, c'est pas normal.
Merci, maître. Félicien Kabamba, vous avez suivi maître Louko et maître Mulumba. À comprendre, maître Mulumba, les différentes actions qui sont menées dans la lutte contre la corruption vont un peu en ordre dispersé.
Bon, disons que ces réflexions déjà telles qu'ils le mènent, c'est déjà une très bonne chose, mais il faut savoir une chose, c'est que la lutte contre la corruption ne peut pas se cantonner uniquement à une simple analyse du discours, à une simple conception de la stratégie. Mais il faut, en fait, aller vers les pratiques réelles, vers les pratiques collectives elles-mêmes. Il faudra là, beaucoup plus, une responsabilisation de l'État, même si c'est dans une situation où chaque Congolais apporte du sien, mais l'État congolais doit prendre le devant. parce que c'est l'État congolais qui a en fait la charge de sanctionner. Et moi, je voudrais ici préciser. En fait, aujourd'hui, le fonctionnement réel de l'État en RDC, au-delà des organigrammes et des déclarations politiques, reste très très éloigné de son fonctionnement officiel.
C'est
la corruption est partout. Elle est très visible. Elle est très visible. Et donc, il faut des solutions concrètes. Il faut aller directement vers les faits. C'est vrai qu'il faut concevoir les stratégies. Mais attention, jusque-là, la lutte contre la corruption s'est limitée uniquement au discours. Les discours sont bons, mais il faut aller vers le concret. Et le concret, c'est que on ne peut pas lutter contre la corruption sans connaître les pratiques corruptives elles-mêmes. Et moi, je voudrais ici qu'avant d'aller faire les stratégies, il faut faire des analyses à l'intérieur même de notre pays. Connaître les formes de corruption telles qu'elles se présentent. Un peu à l'analyse, donc à l'image de ce qui avait été fait dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où les anthropologues ont mené des études pour connaître les formes sous lesquelles s'exprime la corruption dans ces pays-là. Et si vous lisez, par exemple, Jean-Pierre Olivier Desjardins et Georges Bourdon, qui ont publié un ouvrage intéressant sur l'État et corruption en Afrique, ils vous montrent les méandres les plus compliqués à travers lesquels s'exprime la corruption dans ces pays. Et chez nous, nous ne voyons pas un effort vers la connaissance des pratiques corruptives, et donc la connaissance de ces pratiques va vous suggérer des solutions appropriées. Et moi, je crois qu'il ne faut pas, il faut pas seulement rester au niveau du discours, il faut aller vers, donc ne pas délaisser les pratiques, il faut aller vers les pratiques réelles de corruption et suggérer en fait des solutions adaptées.
Donc, Félicien Kabamba est par exemple dressé un lexique des pratiques de corruption en RDC.
Exactement, exactement. Je voudrais aussi inciter la société civile à le faire, parce que cela a été fait ailleurs.
Alors, nous allons passer directement à la deuxième partie de cette émission. Vous parlez, vous énoncez déjà quelques solutions, Félicien Kabamba. Que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption? Vous parlez de dresser une cartographie des pratiques de corruption et de concrétiser tous les discours. En plus de cela, que faut-il faire, Félicien Kabamba?
Oui. J'étais en train de dire qu'il faudrait, au-delà de la stratégie qui est mise en place, qui est déjà faite, il y a des acteurs qui proposent une stratégie, il faudrait qu'il y ait un programme de gouvernement de lutte contre la corruption. Et selon moi, le premier chantier, le premier véritable chantier du chef de l'État devait être la lutte contre la corruption. Et dans ce chantier, on devait avoir des programmes précis qui devaient être exécutés. Parce qu'en fait, avec le système érigé en corruption tel que nous les vivons aujourd'hui, vous pouvez mettre 10 milliards, 20 milliards dans ce système-là, je vous assure, vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. Mais si vous assainissez le système, il y a moyen que les 20 milliards, les 30 milliards qu'on va injecter dans ce système puissent produire des résultats. Mais le système étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est un système qui est corrompu, un système qui est érigé dans une corruption qui date de plusieurs années, et donc que l'on ne peut pas attribuer au chef de l'État actuel ou au système politique actuel, mais il faudra qu'aujourd'hui, des programmes bien précis de lutte contre la corruption soient bien pensés, sans ces programmes. Et ces programmes ne concernent pas uniquement le ministère de la Justice, c'est des programmes multisectoriels, c'est des programmes qui doivent être suggérés dans par chaque compartiment du système. C'est de la sorte que l'on peut arriver à lutter contre la corruption. Ce n'est nullement une question qui concerne uniquement le ministère de la Justice, mais c'est une question qui embrasse la société civile, les entreprises privées, qui embrasse tout le monde. Et donc la corruption est devenue quelque chose qui sévit, non seulement au sein de sociétés étatiques, mais également dans les entreprises privées. Et il faut un programme très ambitieux. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est le tout premier chantier de chevalier.
Maître Rustin Loco, vous êtes porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. Y a-t-il un programme de gouvernement, un programme du gouvernement, hein, le programme, une stratégie nationale de lutte contre la corruption, comme le disait Maître Mlumba?
Très rapidement, il y a un programme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller à la faculté ou à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa pour que les gens sachent qu'il y a un programme?
Quel est ce programme?
Quel était? Si vous arrivez au ministère de la Justice, vous allez trouver ce programme. Et non, cette émission n'est pas appropriée pour que vous...
Donnez les grandes lignes de ce programme pour les auditeurs qui ne seront pas arrivés au ministère de la Justice.
L'impression qu'on donne, c'est qu'on veut... Lorsqu'on dit qu'on est répertoire des sources,
ou des pratiques de la corruption.
Ça ne va aboutir à rien du tout parce que c'est connu, là.
Si nous arrivons au ministère de la Justice, à marge du programme, nous sommes nous convaincus au ministère de la Justice.
Et dans tout le monde entier, on a vaincu la corruption. C'est passé par la sanction. Cette délitescence continue. C'est parce qu'il n'y a pas eu sanction. Nous avons un cinquantenaire d'intimité. Et lorsqu'on c'est comme ce qu'ils appellent la langue des bois, ou bien c'est que la presse appelle la langue des bois. Donc les gens veulent qu'on fasse quoi comme preuve que l'on veut combattre la corruption. L'on ne vaincra jamais. Et puis, la problématique de la corruption, c'est que les gens, chacun ne fait pas son travail. Les ministères, par exemple, les jeunesse et sport, ou famille et consorts, doivent faire le travail qui les concerne, l'éducation, enseignement primaire et secondaire. Mais puisque enseigner aux élèves, comme nous avons grandi, que l'on ne réussit pas en donnant de l'argent.
Si chacun se défendrait à sa manière.
Non, c'est pour dire que non, dans chaque compartiment du gouvernement, chacun doit faire son travail. C'est-à-dire, au niveau du ministère de la Justice, on constate que, parce qu'il n'y a pas sanction, les corrompus se multiplient. Et parce qu'il n'y a pas sanction, les corrompus continuent à occuper les fonctions. Qui doivent sanctionner? Ce sont les magistrats de la justice. Ça veut dire, c'est lui, ces policiers-là, qui est corrompu sur la route. S'il ne peut pas être traduit devant le juge de police, il va continuer. Et nous le voyons, il continue. Parce qu'on ne le traduit pas devant le juge de la police, qui va le sanctionner en le mettant là où il doit être, c'est-à-dire en prison.
Mais quand on le traduit, il est en liberté quelques jours après.
Non, c'est pas vrai. Tout ça,
c'est la propagande. Dit, hein?
Non, tout ça, c'est la propagande. C'est pas ça que l'Église a dit. La propagande, ça veut dire que quelqu'un, on l'arrête, il sort. Parce qu'il a corrompu. Ou bien il s'est évadé. Ceux qui sont condamnés à la prison, à Matala, ceux qui sont condamnés, ils restent. Je peux citer des noms.
C'est pas nécessaire.
Mais ceux qui sont condamnés, ceux qui vont en prison par les parquets, qu'on sort, il faut. Mais ceux qui sont par une décision de justice, ils restent juste à puiser leur peine. Ils vont commettre d'attendre la grâce, ou bien une amnistie, ou bien une libération conditionnelle. Dans tous les cas, nous devons être tous d'accord que sans la justice, on ne va pas combattre et vaincre la corruption. Tout passe par la justice. Donc, voici que ce n'est pas dans les frontières. La corruption, ce n'est pas dans les frontières. Elle est ainsi renforcée parce que dans les frontières, pour la plupart, il n'y a pas de magistrats. S'il n'y a pas de magistrats, la société civile criera et on n'aura pas à vaincre la justice, la corruption. Donc, ça passe principalement par la sanction. À ce qui concerne le discours du ministère de la Justice.
Maître Mulumba Kibumba, je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Parmi les solutions, vous parlez d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous proposez une solution systémique, mais vous avez également parlé d'une force culturelle que nous avons. Donnez quelques détails à ce niveau.
Oui, la force culturelle, vous savez, nous avons une musique que nous pouvons utiliser pour travailler à la lutte contre la corruption, au lieu de chanter des sujets toujours plats, il y a moyen que nous puissions sublimer cette musique pour travailler aux valeurs essentielles, comme par exemple la lutte contre la corruption. Nous avons aussi l'art qui peut être utilisé, les contes, les j'ai dit par exemple dans la culture Né-Congo. Nous avons découvert qu'à son temps-là, du temps des Dingancourt ou les autres, on disait que le roi était un mendiant. Le roi est un mendiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, lorsqu'il a des fabriques, il commence à avoir des compagnies d'aviation, il commence à avoir des gisements de diamants et de l'or, il a commencé à voler le peuple. Ça veut dire quoi? Le roi doit vivre de ce que le peuple lui donne en compensation de l'apostolat qu'il endure parce qu'il travaille à la paix, à la sécurité, à l'ordre et aux forces dures et nocturnes dans son village.
Maître Mulumba, il y a Ibrahim de Kisangani en province orientale qui dit « Seule la tolérance zéro réellement appliquée dans tous les domaines peut bannir la corruption. Rappelons-nous de Mzee Kabila qui emprisonnait même les ministres en fonction au sein du gouvernement. Il y a Venant Wabello de Matadi au Bas-Congo, le mal étant enraciné en RDC, notre pays est parmi les plus corrompus du monde. Un salaire normal à la population congolaise suffit pour atténuer le degré de corruption et le maintien de ce salaire pendant plusieurs décennies pourra finalement maîtriser ce mal brièvement. »
Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout au long de mon intervention. J'ai parlé du partage équitable du produit national. Vous comprenez, quand quelqu'un veut devenir plus riche que l'État, mais ça pose un problème énorme. Donc, il faut le partage équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit chercher de l'emploi à tout un chacun, au lieu que les gens puissent vivre dans la précarité. Parce que quand les gens ont du travail, ils peuvent vivre décemment et communier à la citoyenneté. Il y a une grande amplitude de citoyenneté dans ce domaine-là. Et monsieur qui dit ça, il a raison. La tolérance zéro, je viens de le dire, la justice, il faudrait y penser, c'est un besoin essentiel. Et nous, nous défendons l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais comment sauvegarder cette indépendance pour la lutte contre la corruption, c'est notre domaine. Je viens de donner des solutions.
Merci.
La Cour constitutionnelle a installé, et puis le contrôle dans le système judiciaire,
c'est
la sanction. Mais il ne faut pas oublier que le magistrat, c'est un homme.
Merci, monsieur.
Il est le chef comme nous. Il faut penser à ses conditions sociales et professionnelles.
Merci, maître. Félicien Kabamba, il y a honorable Odiane Douné de la Polin de la province orientale qui dit: la RDC ne cesse d'organiser des séminaires et ateliers de renforcement des capacités, malheureusement sans résultat. Il me semble que la corruption s'est installée en RDC avant tout par manque de volonté et l'institutionnalisation de ces fléaux. Mais pour mettre fin à la corruption, le gouvernement de la République doit laisser les cours et tribunaux libres et les doter des moyens conséquents afin de faire face à cette épidémie.
Oui, je crois que c'est tout à la raison. Il a parfaitement raison, mais il ne faut pas tomber non plus dans cette panacée de croire que quand on a beaucoup de magistrats, et donc on a résolu le problème de la corruption. Et non. En fait, celui qui m'a précédé, quand c'est le premier à parler, il a dit que le fait d'augmenter le nombre de magistrats est une bonne solution. J'accepte ça. Mais en fait, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, la magistrature est là, des secteurs où la corruption règne à maître. Et donc, généralement, quand chaque citoyen est devant un magistrat, il sait qu'il faut qu'il apprête, en fait, qu'il se livre à une crise de corruption. Et donc, du coup, le problème ne doit pas seulement être posé en termes d'effectifs du magistrat, mais il faut aller plus loin. Il y a d'autres thérapeutiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'en fait, on ne peut pas ignorer l'importance de la connaissance, l'importance de recherche pour trouver des solutions aux problèmes de corruption. On ne peut pas dire que donc on connaît tout, on connaît tous les modes d'expression de la corruption. Non, il faut au préalable réhabiliter la science, réhabiliter la connaissance, faire des recherches, connaître les modes opérateurs de la corruption avant de trouver des solutions.
Merci. Merci Félicien Kabamba. Maître Richard Louko, un mot pour conclure, hein, l'émission va
se conclure principalement, c'est pas le nombre, important les magistrats qui résout le problème, mais le nombre, important les magistrats conscienciés, les magistrats de tolérance zéro, les magistrats de la rupture, est important parce que partout où vous se trouvez, ils ne sont pas là pour comme des pasteurs, faire les bâtiments, pour faire la gestion des commerces, mais ils sont là pour veiller à ce que l'impunité puisse reculer.
Merci
à la République et promouvoir la démocratie.
Maître Moulumba, un mot aussi en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, comme j'ai entendu M. le conseiller du ministre de la Justice dire qu'il a un programme, ce programme ne doit pas être dans le tiroir du ministère de la Justice. La société civile propose pour avancer, aller de l'avant, que ce programme soit mis à la disposition de la société civile.
Merci.
Pour que l'on puisse le vulgariser.
Merci. Félicien Kabamba concluait aussi.
Oui, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de choses que l'État congolais doit faire. Parce que si l'État ne combat pas la corruption, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de développement. Il faut réinventer l'État congolais.
Merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Kevin Kouté était à la réalisation, assisté de Samuel Kachak, sous la supervision rédactionnelle de Péléquipé Lamondou, mise en onde Mimi Kindou, coordination technique Bob Landou, présentation Alain Roumoussouj. Bonne fin de semaine à tous. I'm going to go to the next one.